Voix Afrique, les infos à Washington.
Jean Roger Billon, 13h à Bujumbura. Bonjour à tous. Des enquêteurs de l'ONU sur le Burundi ont averti aujourd'hui que de graves violations des droits de l'homme, dont des crimes contre l'humanité, s'y poursuivaient sans relâche, pointant les appels récurrents à la haine du président Pierre Nkurunziza. Ce climat attentatoire aux droits de l'homme continue à être favorisé par des appels récurrents à la haine, à la violence de la part d'autorités dont le chef de l'État et des membres du CNDD-FDD, le parti au pouvoir, ainsi que par une impunité générale, a indiqué dans un rapport la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi établie en 2016 par le Conseil des droits de l'homme. Cameroun, au moins 5 militaires blessés et 2 personnes tuées dans l'extrême nord. L'attaque des militaires est survenue dans la nuit de mardi à mercredi, information confirmée à VOA Afrique par une source au sein du BI, le bataillon d'intervention rapide, l'unité d'élite de l'armée camerounaise qui lutte contre le terrorisme dans la région de l'extrême nord depuis 2005. D'après notre correspondant dans la région, cette attaque s'est produite dans la localité de Maloumri, dans la commune de Kolofata. Kolofata, qui a été à plusieurs reprises attaquée, la cible d'attaque donc d'éléments de Boko Haram. L'opposition burkinabé appelle à une journée de manifestation et ce sera le 29 septembre prochain pour protester contre la gestion du président Roch Marc Christian Kabore, jugé chaotique depuis son accession au pouvoir en novembre 2015. Les précisions de Bagasikura.
Cette manifestation qui se tiendra sur l'ensemble du territoire national sera la première du genre organisée par l'opposition depuis l'élection du président Kabore. C'est une action contre la gestion chaotique de notre pays à laquelle nous convions l'ensemble des Burkinabés, a lancé le chef de l'opposition Zéphirin Diabré en compagnie des responsables politiques lors d'une déclaration à la presse mardi. Avec le régime de Roch Marc Christian Kabore, les mots que les Burkinabés dénonçaient sont toujours là en pire, a déploré Diabré, pointant la menace terroriste grandissante, l'aggravation de la misère et de la précarité, le chômage, la corruption et le népotisme, l'instrumentalisation de la justice, l'accaparement du pouvoir et la politisation de l'administration. Le président Kabore a été élu en novembre 2015 et s'est engagé à faire reculer la pauvreté.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, féroce bataille politique autour de l'audition du candidat de Donald Trump à la Cour suprême. Les audiences publiques de la commission judiciaire du Sénat sur la confirmation du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême se poursuivent aujourd'hui après des débuts houleux mardi marqués par les demandes de report des audiences par les démocrates et les cris des manifestants qui s'étaient faufilés dans la salle. Le juge Kavanaugh a pu finalement s'adresser à la commission et l'a souligné qu'un juge doit interpréter la loi et non pas légiférer, ajoutant que la Cour suprême ne doit jamais être perçue comme une institution partisane. Le maire démocrate de Chicago, Rahm Emanuel, a annoncé hier à la veille d'un procès embarrassant qu'il renonçait à briguer un troisième mandat à la tête de cette ville, ravagée par une guerre de gangs meurtrières. Précision d'Irénée Hermanoumbou.
J'ai décidé de ne pas me présenter à ma réélection, a déclaré l'ancien directeur de cabinet du président Barack Obama, qui dirige la troisième ville des États-Unis depuis 2011. Un temps considéré comme une étoile montante du Parti démocrate, Rahm Emanuel a vu sa cote de popularité chuter à mesure que se multipliaient les fusillades à Chicago, qui détient le triste record du nombre de meurtres aux États-Unis. Sa notoriété dans la communauté afro-américaine a fortement baissé après la mort d'un adolescent noir tué en 2014 par un policier blanc alors qu'il marchait dans la rue. Rahm Emanuel a été accusé d'avoir cherché à étouffer le scandale. Les autorités de Chicago avaient attendu plus d'un an avant de publier la vidéo montrant comment Laquan McDonald, 17 ans, a été abattu de 16 balles. Le procès du policier s'ouvre aujourd'hui. L'annonce de Rahm Emanuel a toutefois créé la surprise puisqu'il avait déjà levé des millions de dollars en vue de sa campagne pour l'élection de février 2019.
Et ici à Washington, le président Trump a qualifié de fraude et de tentative de tromper le public les anecdotes et confidences contenues dans le dernier livre de Bob Woodward du Washington Post. Il s'est demandé si ce célèbre journaliste d'investigation n'était pas un agent démocrate. Woodward avait révélé avec Carl Bernstein le scandale du Watergate qui avait conduit l'ancien président Richard Nixon à démissionner dans les années 70. Dans des extraits de ce livre, Bob Woodward parle concernant les 19 premiers mois de l'administration Trump de coups d'État administratifs et de dépression nerveuse. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est arrivé aujourd'hui au Pakistan où il doit rencontrer le nouveau premier ministre Imran Khan et espère réinitialiser des relations devenues conflictuelles entre les deux pays ces derniers mois. Il s'agit de la première visite de M. Pompeo en tant que chef de la diplomatie américaine au Pakistan, pays dont les États-Unis jugent l'attitude décisive pour l'issue de la guerre qui dure depuis 17 ans en Afghanistan, voisin où la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Il est 7h06 à Washington. Retour sur le 7e forum Chine-Afrique qui a pris fin hier à Pékin après 2 jours de travaux. Le président chinois Xi Jinping a promis 60 milliards à injecter sur le continent, 60 milliards de dollars dans 8 chantiers majeurs ciblés. Ce financement servira pour les 3 prochaines années. Des dirigeants de 53 pays africains ont fait le déplacement en Chine. Pour analyse, Eric Manirakiza à Jean Abidjan, l'économiste et consultant auprès de la BAD, Prime Nyamoya.
Je ne pense pas que ce soit l'objectif de la Chine de combattre la pauvreté en Afrique, mais elle concourt quand même avec son appui aux investissements en Afrique à réduire fortement la pauvreté. Mais je pense que son objectif, c'est plutôt également de intensifier le courant des affaires, c'est-à-dire les importations et les exportations vers l'Afrique. 60 milliards pour la Chine actuellement n'est pas quelque chose de au-dessus de ses moyens, puisque c'est un pays actuellement qui engrange beaucoup de ressources financières et elle a intérêt naturellement à pouvoir les placer. Ensuite, la Chine a une structure étatique forte qui lui permet d'envisager le long terme, ce qui n'est pas possible avec les investissements privés.
Il y a eu 8 chantiers ciblés. Vous avez passé en revue les initiatives mentionnées. Qu'est-ce qu'on a oublié selon vous?
Non, je crois que tout y est. Tout y est parce que les 60 milliards sur les 3 ans vont couvrir pratiquement tous les domaines économiques, infrastructures, financiers, etc. Mais également, et là, c'est la première fois, les domaines sociaux tels que la santé et l'éducation, puisqu'on parle d'échanges universitaires entre la Chine et les pays africains. Mon seul souci, c'est de savoir si tous ces objectifs seront réellement atteints dans le temps imparti de 3 ans que se donnent les deux parties.
Mais ce financement va alourdir la dette, n'est-ce pas un couteau à double tranchant?
C'est évident que la dette va être alourdie, c'est-à-dire que c'est de la responsabilité également de chaque État africain de pouvoir garder un ratio raisonnable, ne pas trop s'endetter. Mais il y a également eu une annonce que pour les pays les plus pauvres, la Chine est disposée à faire une annulation d'une partie ou de la totalité de la dette. Ce qui est quand même une bonne nouvelle, ce qui signifie qu'il y a un élément de subvention de sa part. Je crois que c'est chaque pays africain, en réalité, qui devrait pouvoir se fixer des objectifs précis avec la Chine en disant, voilà, nous avons un ratio d'endettement tellement élevé, nous ne pouvons pas aller plus loin et négocier éventuellement des aides non remboursables. Je crois que c'est la meilleure formule. Si la Malaisie l'a fait, forcément, je pense que la plupart des pays africains sont dans le même cas ou même dans des cas beaucoup plus graves en termes de ratio d'endettement.
Prime Nyamoya, économiste et consultant auprès de la Banque africaine de développement. 11 morts, plus de 600 blessés, de nombreux dégâts matériels et le chaos à l'aéroport de Osaka, Kansai, dans l'ouest du Japon, où des milliers de passagers étaient en cours d'évacuation aujourd'hui. Le typhon Jebi, qui a balayé le Japon, restera dans les annales, même s'il est loin d'être le plus meurtrier. Ce 21e typhon de la saison, dont les vents dans la partie centrale dépassaient 160 km/h et près de 220 km/h en périphérie, a traversé l'archipel du sud-ouest au nord, s'affaiblissant en bout de course. Il n'est désormais plus qu'une tempête au large. Il était classé dans la catégorie des typhons très puissants, lesquels touchent assez rarement le Japon. C'est le premier de ce type accostant sur l'archipel depuis 1993. Jean-Roger Billon à ce micro. Aux prochaines infos dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque pour un nouveau journal. À tout à l'heure et merci pour votre fidélité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.